Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 17e épisode, épisode numéro 16. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Agathe Boutmi. Bonjour Agathe Boutmi, qui êtes-vous?
Bonjour, alors je suis support chez Clever Club. Voilà.
Voilà. Merci Agathe. Je suis aussi accompagné d'Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous?
Bonjour. Moi, je travaille donc à Clever Cloud et je m'occupe entre autres de la partie front de différents add-ons et je fais aussi de l'Ops et du réseau.
Et je suis accompagné de Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous?
Bonjour, je suis un des fondateurs de Clever Cloud et au jour le jour, je fais plein de choses, des API, un peu d'Ops et j'ai commis beaucoup trop de morceaux de la plateforme.
Je ne se prononce pas, c'est moi qui fais du support, après c'est pas pour balancer, tu vois.
Je suis assez d'accord avec voilà.
Voilà. Nous allons commencer immédiatement par un tweet, par un problème de chez Twitter. Vous avez probablement vu passer plein de mèmes cette semaine avec des photos et des biais sur le découpage des photos. Quand vous mettez une photo trop longue, la photo est reformatée par Twitter. C'est comme ça que Alexandre Duval, qui n'est pas là, a trollé gentiment Clever Cloud avec un drapeau normand et un drapeau breton. Et quand tu mets une photo avec un drapeau normand et un drapeau breton, c'est toujours, peu importe l'endroit où il est, le drapeau normand qui ressort. Ça, c'est pas très grave. Par contre, quand tu mets une photo avec quelqu'un de blanc et quelqu'un de noir, c'est toujours la personne blanche qui ressort. Du coup, c'est chelou. Agathe Boutmi, c'est ton lien.
Ouais, du coup, en fait, j'avais vu ça cette semaine. Donc, la personne qui avait posté ça, c'était AdBascule sur Twitter, a fait des tests en plus pour vérifier. Donc, par exemple, prendre trois photos d'Obama avec plus ou moins de contraste. Et il se trouve qu'effectivement, c'est avec le plus de contraste, donc c'est la peau vraiment blanche qui ressortait. Et suite à ça, bon, évidemment, il y a plein de gens qui ont fait des blagues dessus, notamment avec le trolley problème. Donc, on met quatre personnes, une personne, et c'était les quatre personnes qui ressortaient. Voilà, et du coup, bah, Twitter a décidé de prendre, de regarder en fait pourquoi son algorithme faisait ça. Ça, c'est bien. Et suite à ça, en fait, je suis tombé sur d'autres articles sur les biais dans l'intelligence artificielle.
Yes, et donc le deuxième article, à moins que Julien et Arnaud aient des choses à ajouter sur le sur Twitter.
Ouais, alors moi j'avais cru voir, déjà j'avais pas vu que Twitter avait répondu, donc c'est cool, mais j'avais cru voir que genre sur TweetDeck par exemple, c'était pas le cas.
Ouais, alors sur TweetDeck, effectivement j'utilise TweetDeck, et c'est quand même resizé, mais c'est a priori au centre de l'image de ce que j'ai pu comprendre.
Ouais, c'est ce que il me semble que j'avais vu, genre sur le web client et sur les applications Twitter officielles, c'était le cas, et TweetDeck, bah... Enfin, qui est pourtant aussi une application qui semble être officielle de Twitter, non?
Je crois que oui, j'ai jamais trop compris.
Normalement, oui.
Enfin, c'est sous le nom de domaine twitter.com, donc à partir de là, voilà. Mais... Et en effet, c'était pas le cas, donc c'est étrange, quoi. Il y a plusieurs API, je suppose, pour choper les images, je sais pas.
Ou alors c'est fait client-side, je sais rien. C'est peut-être juste le display client-side.
Ouais, peut-être, ouais.
C'est étonnant.
Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que ça fait des années qu'on montre... Je sais pas si vous vous souvenez de la caméra qui suivait le visage des blancs.
Ouais.
Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes algos qui tournent depuis des années ou qui sont entraînés de la même façon depuis des années sans que personne ne se pose de questions, quoi. Alors, c'est bien que Twitter se pose enfin la question et décide de peut-être faire quelque chose et d'investiguer là-dessus, quoi.
Ce qui est triste, c'est qu'il faut se foutre de la gueule de Twitter avec des mèmes au niveau mondial pour que les gens se posent la question.
Ouais, c'est ça.
Et à la limite, quand c'est juste ça, juste des photos, il n'y a pas mort d'homme, très littéralement. Par contre, quand c'est pas juste des photos et que c'est le healthcare, donc la sécu santé aux US, là, c'est plus compliqué. Ce qui nous amène au deuxième lien, c'est un lien de nature.com.
Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un algorithme pour, en gros, décider comment soigner les patients, etc., aux États-Unis. Et il se trouve que l'algorithme discrimine systématiquement toutes les personnes noires. Et alors, la raison, ce serait parce qu'il se base, en fait, sur les coûts des soins. Sauf que, et donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les coûts des soins étaient plutôt les mêmes pour la personne moyenne noire et la personne moyenne blanche. Sauf que il se trouve que les personnes noires vont souvent avoir le plus sujet de diabète, par exemple, et que tout ça n'était pas pris en compte. Ce qui faisait que donc, tu rajoutais à ça, en plus, des bières racistes, etc., parfois dans la santé et tout, ce qui faisait qu'en fait, il y avait plus de problèmes de santé chez les personnes noires et qu'elles ne recevaient pas leurs soins à cause de ça. Et ils ont réussi plus ou moins à réduire ce problème en utilisant d'autres variables, en fait. Bon, le problème, c'est toujours trouver quelles variables, voilà. Mais ils ont réussi à réduire les biais, par 84%.
Le problème, c'est quelle data tu mets en entrée et quel impact les data que tu mets en entrée vont avoir après, parce que si j'ai bien ce que tu as dit, c'est que les décisions sont prises, c'est par un outil de prise à la décision, d'aide de prise à la décision.
C'est un outil d'aide de prise à la décision.
C'est un outil d'aide, ou c'est genre c'est comme ça?
Techniquement, c'est un outil d'aide, mais c'est t'as beaucoup de, parce qu'ils ont beaucoup de patients, je pense, t'as beaucoup de décisions qui sont prises avec ça, en fait. Et en fait, si le système n'était pas biaisé, ils se sont rendu compte que en fait, alors t'as que 17% des patients, en gros, qui recevaient des soins en plus quand ils étaient noirs, avec l'algorithme de base, et alors que c'était 46% si tu résolvais le biais.
Yes. En fait, c'est vachement bien décrit dans l'article d'après, qui est là un article sur la police, sur les algos de détection de crime. C'est, enfin, ça fait un peu science-fiction, mais c'est un peu littéralement ce qu'ils utilisent. Eux, ils parlent de météo de crime, tu vois, genre, suivant les conditions actuelles, il est possible que ça pète à cet endroit-là. Et c'est assez flippant, parce que les data que tu vas faire rentrer quelque part, qui représentent quelque chose, qui vont entraîner des décisions basées sur ces data-là, vont encore plus renforcer ce truc-là. Et du coup, tu vas utiliser les data nouvelles qui ont déjà été renforcées par les data anciennes. Du coup, tu as une boucle qui se passe, et ça renforce les décisions que les gens vont prendre basées sur les datas d'avant, et ainsi de suite. Et bon, bref, ouais. c'est une...
Et d'ailleurs, en parlant de santé, j'ai appris il y a une semaine, alors j'ai pas d'article sous la main à mettre, faudrait que je demande à la personne qui me l'a expliqué, mais il y a un truc qui est assez connu, par exemple, c'est un Haïti, si je dis pas de bêtises, enfin, dans ce coin-là, les gens qui y habitent sont assez obèses, et ça vient du fait que leurs ancêtres avaient traversé le Pacifique, et que seuls ceux qui avaient la capacité à stocker de la nourriture, en fait, dans leur corps, pendant toute la traversée du Pacifique, avaient survécu, en fait, étaient arrivés. Et ce qui fait que quand la bouffe américaine est arrivée sur ces îles-là, bah, les gens se sont mis à grossir énormément, quoi. Et donc ça, c'est un vieux truc, enfin, je le savais depuis des années. Et sur les Noirs américains, il y a un peu justement sur le diabète et l'hypertension, il y a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il y a une sélection naturelle, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire que quand on a embarqué des gens dans des conditions atroces et qu'on les a fait vivre pendant des siècles dans des conditions atroces, en fait, les seuls qui ont survécu, c'était ceux qui étaient capables de survivre à de la malnutrition, à une traversée de l'Atlantique dans des conditions plus qu'horribles. Ce qui fait que maintenant, avec l'alimentation de maintenant, etc., ce sont des gens qui ont plus de problèmes de santé, notamment l'hypertension, du diabète, etc., qu'il faut aussi prendre en compte quand tu es médecin, quoi.
Donc, en fait, des actions menées il y a plusieurs centaines d'années, tu vois, au final, ont une répercussion aujourd'hui, quoi.
Et puis comme voilà, et après ça peut faire aussi que les gens vont considérer que tous les noirs ont ces maladies-là, alors que non, c'est que les noirs américains. Enfin, c'est pas des maladies, mais des
prédispositions.
Des prédispositions, mais qui sont dues à une sélection, finalement, quoi. C'est horrible de le dire comme ça, mais
c'est globalement ce qui s'est passé. Et on sait tous que le régime alimentaire américain étant ce qu'il est, quand t'es prédisposé à avoir du diabète, bah c'est bien d'être au courant que la plupart des trucs qu'on donne à bouffer là-bas, c'est rempli de sucre et de sel. Et surtout de sucre. Mais bref, bah, donc troisième article, un article de technologyreview.com, je connaissais pas ce site, qui est un article hyper complet et hyper documenté sur la façon dont la police fonctionne avec ces algos-là.
Alors, il y avait, bah, tu disais, c'est des articles, des algorithmes de prédiction. Il y a deux choses, en fait. T'en as qui permettent simplement de prendre une décision sur si on relâche cette personne, elle va être réarrêtée ou non derrière, et si elle va récidiver. Enfin, voilà, en gros, ça permet juste de savoir si on garde quelqu'un en prison le temps du procès ou si on peut la relâcher, en fait.
Ouais, c'est des stats qui ont été faites sur les datas de tous les gens qui ont été relâchés et qui ont récidivé.
Après, il y a d'autres...
Plein de statuts. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme critère, mais globalement, tu as ouais, la couleur de la peau.
Tu n'as pas la couleur de la peau, justement, en fait. C'est les compass, je crois. Celui-là, il n'y a pas la couleur de la peau, justement, mais l'algorithme arrive quand même à être biaisé. Parce que je pense que ça doit prendre en compte la location, enfin, l'endroit, le lieu, ce genre de choses. Et ils se sont rendus compte que même sans inclure un critère de race, c'est-à-dire que justement, il fallait inclure un critère de race pour pouvoir réduire le biais en disant bah, on considère que les risques sont moins élevés par rapport aux données de base pour une personne noire américaine que pour une personne blanche, par exemple, pour que ce soit plus juste, en fait.
C'est-à-dire que systémiquement, si la majorité des personnes noires vivent dans des quartiers plus pauvres et sont plus pauvres et ont moins de thunes, ça va se traduire dans cet algo-là. Et systématiquement, les personnes blanches vivent dans les quartiers où il y a plus de thunes et ont plus de thunes.
C'est ça. Et en fait,
ça se retraduit dans ce
Comme ça se base sur des statistiques d'arrestation, enfin d'arrestation,
oui,
dans le sens
ça.
On emmène au poste pendant 2 heures hein, ou pendant même 15 minutes. Et de personnes qui ressortent après, bah, comme les flics ont tendance à plus arrêter des personnes noires, du coup ça augmente les stats de ce côté-là, même si c'est pour des broutilles, enfin, ou des suspicions de quelque chose, ou enfin si c'est pour rien, quoi.
Tu veux dire si c'est pour 15 grammes de shit dans une gare entre.
Sur 325 passagers, tu veux dire
c'est...
Absolument.
C'est quand tu parlais de boucle tout à l'heure, en fait, c'est exactement ça, c'est que. Tu vas avoir déjà de base les données de départ qui sont bah, biaisées. Et en fait, comme bah, chacun, on a des biais, etc., que ce soit des biais racistes, que ce soit des biais autres, tu vas avoir une majorité de personnes qui vont être racisées, qui vont être arrêtées, du coup, par exemple, aux États-Unis, pour des crimes ou même sur suspicion de quelque chose, juste amené au poste. Ce qui fait que ça va renforcer le système et voilà, et ça crée une feedback.
Et ça, du coup, ça, c'est, enfin, cet article, il se base que sur quelque chose qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression.
Ça prend aussi en compte l'Europe. Ouais. Le problème,
d'accord,
c'est qu'en Europe, et ces trucs-là sont pas encore assez entraînés pour pouvoir vraiment tirer de conclusions. J'ai bien compris.
Surtout, on utilise beaucoup moins ces algos-là, en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont vraiment, depuis quelques années, commencé à se baser vraiment sur de la prise de décision. À partir de ces données-là, alors qu'en Europe, je pense pas qu'on y soit encore complètement à faire confiance à ces trucs-là.
Ouais. Ouais. Ouais, puis je me demande, enfin, s'il faut pas passer des lois et tout, enfin, je sais pas, ça doit quand même être un peu.
Ouais, en fait, quel est l'impact? Alors, est-ce que c'est juste un outil de prise à la décision, d'aide de prise à la décision, ou c'est une prise à la décision?
Voilà.
Comme Agathe l'a dit, à partir du moment où t'as cet outil-là, t'y vas. Et t'as un gros mouvement defund de police en ce moment aux US, et t'as pas mal de personnes qui disent, mais de toute façon, il y a déjà plus de thunes aux US pour financer la police. Et c'est pour ça qu'ils ont, entre guillemets, utilisé des outils d'aide à la prédiction, ce qui remplace un peu le travail que tu ferais normalement sur le terrain. Et un des problèmes qui remonte à ce niveau-là, c'est que comme ils ont pas trop de thunes pour acheter des algos à toutes ces boîtes-là, ils savent pas forcément trop ce qu'ils achètent non plus, parce qu'ils ont pas le temps de regarder.
C'est implanté ou
du coup tu te retrouves à utiliser des algos, tu sais pas trop comment ils ont été faits, qu'est-ce qu'il y a dedans, avec quoi ils sont entraînés. Enfin, t'as plein de questions en termes de transparence qui sont vraiment 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 compliquées. Et quand tu vois l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens, c'est chaud.
Ouais.
Et du coup,
bah, c'est vrai que c'est vachement effrayant.
C'est yet another exemple que l'IA et le machine learning, etc., bah, renforcent les biais. Il y a un an, il y avait déjà eu l'histoire à Amazon, je crois, où c'était rendu compte que.
Il y avait Amazon, il y avait Apple.
D'embauche, là, ou Apple, ou je sais plus quoi. Et ils avaient un outil de prise et décision à l'embauche qui déjà écrémait les candidats pour la boîte, qui avait tendance à virer les femmes parce que. En gros, ne pas faire passer les femmes jusqu'à la première étape d'embauche, parce qu'ils avaient entraîné sur les 15 dernières années où en fait il n'y avait que des mecs, quoi.
Ouais, c'est voilà. Du coup, tu pouvais renforcer. On retourne dans cette boucle infernale où tu nourris ce truc-là.
Mais voilà, moi j'ose espérer que, voilà, à force d'avoir des scandales, on peut dire, qui sortent comme ça. Que les gens commencent déjà à se poser des questions dans les gens qui vendent des algos et qui les utilisent. Mais apparemment, d'après l'article, effectivement, la police, la santé, etc., commencent vraiment à prendre des décisions, quoi. Enfin, à prendre des décisions sur comment est-ce qu'on améliore et comment est-ce qu'on évite les biais là-dessus. C'est plus juste une bande de développeurs dans un coin qui râle sur le sujet, quoi. Ou une bande de chercheurs en machine learning.
Ouais, clairement, là, c'est beaucoup plus concret. Ouais.
C'est ça. Et ça commence à changer sur ce sujet, quoi. C'est pas mal.
Ouais, c'est bien. C'est ce qu'il dit, c'est que toutes les émeutes qu'il y a eu jouent en faveur de ce mouvement de transparence et de tu vois, pour savoir ce qui se passe. Mais c'est comme Twitter, tu vois, s'il faut attendre que ce soit le méga bordel pour que les gens se posent la question, c'est quand même d'une tristesse infinie. Ce serait bien d'être un peu plus proactif, et en tant que développeur, ce serait pas mal d'être au courant de ces choses-là et du coup d'inclure dans nos méthodes de développement. Après, je fais pas trop de machine learning, donc je ne peux pas en parler forcément très bien, faudrait en parler à Victor. Et c'est vrai que nous, globalement, on fait du machine learning avec des rythmes de remplissage de disques durs et ce genre de choses, c'est quand même moins impactant.
C'est clair.
Et alors, du coup, aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées, notamment pour qu'il y ait moins de biais, plus que les algorithmes soient plus justes. Le problème étant, comment quantifier ce qui est juste? Par exemple, Réduire les biais, ils avaient essayé augmenter le palier à partir du moment où on considère qu'une personne était à risque, entre guillemets. Donc, par exemple, pour une personne noire, ça aurait été 4 arrestations, pour une personne blanche, ça aurait été 2 arrestations. Et évidemment, il y a des gens qui trouvent ça pas injuste.
Ça s'entend.
Plus, après, il y a d'autres problèmes. C'est le fait, par exemple, que c'est offusqué, le code est pas accessible, donc les gens peuvent pas travailler sur les logiciels en question pour savoir comment améliorer ça. Voilà. Et on ne sait pas aussi, enfin, souvent, quels sont les logiciels qui sont utilisés.
Ok.
Ok.
Cette semaine, on inaugure une séquence un peu particulière puisque nous avons reçu notre premier crowdcast. Donc, merci beaucoup à Michael Roger qui va reprendre le sujet du rachat d'Nvidia sous un autre angle. Encore merci, Michael.
Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Michael. Et je fais cette petite vidéo parce que j'avais réagi sur Twitter à une news qui était parue qui avait été discutée, on va dire, dans le dernier message à caractère informatique, à savoir le rachat de ARM par Nvidia. En fait, pour moi, il y a un point majeur un impact majeur de ce rachat-là qui n'a pas été discuté, même pas évoqué durant le message à caractère informatique. Donc, c'est pour ça que j'avais réagi sur Twitter et Laurent m'a proposé de faire une vidéo pour discuter de ce point-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de défense européenne, c'est quand même une grosse industrie. Hein. C'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas une petite industrie, hein. C'est quand même quelque chose de très conséquent. Et dans ce milieu-là, il y a un règlement américain qui s'appelle l'ITAR. Alors, moi, je suis pas spécialiste des lois, donc je ne sais même pas si on peut le considérer comme une loi extraterritoriale. C'est peut-être le cas. Mais toujours est-il que ce règlement, c'est ITAR, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si dans le secteur de la défense, vous utilisez des composants ou des technologies américaines, vous êtes dans l'obligation pour le vendre et l'exporter, vous êtes dans l'obligation de demander l'accord du gouvernement américain. Alors on peut comprendre tout de suite assez aisément la problématique que ça pose. En gros, je fabrique un composant militaire, un avion de chasse. Dans cet avion de chasse, je vais mettre un chipset Intel. Il faut que je demande au gouvernement américain l'autorisation de vendre mon avion de chasse à l'international. Bien sûr que le gouvernement américain, il va, si on est un peu en concurrence avec ses propres avions, il va peut-être avoir tendance à réduire le scope de l'autorisation, on va dire, ou à les donner au compte-gouttes, les autorisations. Et donc, en fait, dans l'embarqué, et ça, c'est des choses qui sont très présentes, en fait. L'embarqué dans le milieu de la défense, c'est des éléments qui sont très présents. Les chips ARM, ils sont extrêmement utilisés. Ils sont extrêmement utilisés pour les premières raisons que je viens de citer, pour un peu se sortir d'ITAR, mais aussi parce qu'ils sont très efficaces dans cette typologie d'usage. Et donc, en fait, c'est ça la problématique. C'est que le fait que maintenant ARM va devenir une entreprise de droit américain, bah, ça fait que ça va tomber sous le coup d'ITAR et ça va poser de vrais difficultés et des sérieuses problématiques au secteur de l'industrie de défense européenne. Certaines de ces problématiques sont traitées par des politiques. Bien sûr que les États-Unis ne veulent pas se fâcher non plus complètement avec l'Europe, donc ils ne vont pas non plus complètement bloquer l'industrie de défense européenne, mais ça leur donne encore un petit pouvoir complémentaire avec un... à pouvoir jouer sur un curseur pour pouvoir limiter, on va dire, la concurrence sur le domaine de la défense. À long terme, il existe certainement des choses qui viendront peut-être compenser tout ça, comme les architectures de type RISC-V, hein, qui sont, dans lesquelles l'Europe est quand même très moteur, on peut le dire, qui sont des technologies d'architecture chip open source, qui du coup vont pouvoir un peu peut-être à terme venir en remplacement de ces chips ARM, mais toujours est-il qu'à court et moyen terme, ça fait un sacré caillou dans la chaussure des industries de défense européennes. Et c'est, encore une fois, c'est vraiment pas un petit secteur en Europe.
Sans transition aucune, on attaque une RFP sur les portails captifs, c'est de la daube, mais faut faire avec, de Monsieur Borsmeyer, qui travaille à l'AFNIC, l'association française pour...
le nommage d'Internet et des communications.
Le nommage d'Internet en coopération.
En coopération,
qui sont en gros les gens responsables des domaines .fr, .re pour la Réunion, .tf pour les terres australes et antarctiques
françaises, .bzh,
Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, .yt et PM, .wallis et Futuna, .wf. Et ils font aussi du consulting justement pour gérer le .paris, le .brest, le .alsace, le .ovh et probablement plein d'autres. Et donc, Borsmeyer pas content.
C'est ça, en fait, RFC pas contente, en fait, pour être exact. Donc oui, sur son blog, très régulièrement, il décrit en français des RFC qui ont été publiés ou qui vont être publiés, etc. Et là, il y a eu deux RFC qui sont sortis. Alors, il y en a une qui est assez vieille, mais il n'en a parlé que maintenant. Elles se complètent toutes les deux. L'idée, c'est de se dire, le portail captif, c'est la plaie de l'Internet. Donc, le portail captif, vous savez, c'est quand vous êtes dans votre hôtel ou à la gare ou un truc comme ça, vous avez un réseau Wi-Fi complètement ouvert et complètement gratuit. Sauf que quand vous essayez de faire une première requête, ça vous redirige vers un truc où il faut accepter des conditions, ce genre de choses, d'utilisation. Et parfois, lâcher son mail, lâcher son téléphone, ce genre de choses, prendre de la pub en plus. Donc voilà, donc le portail captif, c'est la plaie. Je suis très d'accord avec lui. Il y a plein de problèmes. C'est un man in the middle. En plus, maintenant, avec le HTTPS, parfois, la redirection ne se fait pas bien. Parce que le portail captif essaie de rediriger, ça fait des erreurs de certificat, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Ça va avoir tendance à entraîner, enfin à éduquer les utilisateurs à accepter des erreurs de certificat quand il n'est pas censé y en avoir. Moi, par exemple, ça fait des années que quand je sais que je suis sur un portail captif, je vais sur HTTP sans le S, perdu.com, c'est le site le plus simple à charger. Comme ça, je me fais rediriger là-dessus, il n'y a pas de problème de TLS, etc. Et donc, les deux RFC, il y en a une première qui décrit des extensions DHCP qui permettent à un serveur DHCP et puis aussi quand on fait de l'auto-discovery network, etc., de pouvoir déclarer un portail captif. Comme ça, au moins, le client, donc quand je dis le client, c'est le client DHCP, le PC des utilisateurs, sait que potentiellement, il est sur un portail captif et on a un lien vers une API qui permet directement de dire à l'utilisateur, on va lui afficher un bouton pour dire « Attention, tu es sur un portail captif, va voir là-dessus. » Et voilà. Et donc, la deuxième RFC, le deuxième RFC, d'après Borsmeyer d'ailleurs, décrit cette fameuse API qui permet de communiquer avec le portail captif de façon donc, programmatique et de, par exemple, déjà savoir qu'il y a un portail captif, aller s'y connecter sans avoir à subir la redirection un peu bizarre avec les erreurs de certificat. On peut gérer aussi l'expiration de l'autorisation et donc le Network Manager peut automatiquement aller vous rouvrir un onglet pour dire « Attention, dans une minute, ça va expirer, il faut renouveler, etc. » Et donc, il faut refaire le rituel, donner son sang au portail, etc. pour pouvoir utiliser la connexion SNCF 5 minutes de plus. En vrai, je dis SNCF parce que j'ai pris le train récemment, mais c'est clairement pas les pires.
Il y en a partout après.
En termes de portail captif.
clairement, le fait d'arrêter de demander les mails aux gens, ça avait un peu arrangé le truc, c'était devenu moins lourd. Mmh, fait juste cliquer clair. Une case et accepter les conditions générales d'utilisation. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, il faut remplir un formulaire et c'est relou, quoi. Mmh. Ou juste quand t'es dans des cafés qui proposent du Wi-Fi payant, t'es obligé de te taper un portail captif.
J'en profite pour un pro-tip quand vous êtes dans un TGV inouï ou ce genre de choses qui vous donne un accès à Internet. Si vous avez la flemme de retrouver la référence de votre billet, vous cliquez sur « Aide ». Et là, il y a un petit chatbot qui vous dit « Qu'est-ce que vous avez comme billet ?» Vous cliquez sur « Billet étranger » et il vous connecte automatiquement à Internet sans avoir à rentrer vos informations de billet. Je fais ça en permanence parce que j'ai la flemme d'aller récupérer les cinq lettres et de caler mon nom. Et comme ça, en plus, ça permet d'être un poil plus anonyme.
Tu peux faire sauter la limite de data avec ça ou pas ?
Non, je ne crois pas. Parce que en plus, tu es obligé quand même de dire quelle est ta gare d'arrivée, etc.
Ok. Voilà.
Mais c'est un poil plus anonyme, quoi. Voilà, c'est le petit prototype hacker de la SNCF.
Le prototype sécu. Quelque chose à ajouter, Julien et Julien. Julien, tu viens de parler. Arnaud et Agathe.
Parce que je sais pas si j'ai pas l'impression que Julien l'ait dit, mais globalement, ouais, de toute façon, cette nouvelle API, alors c'est cool, mais enfin, ça va mettre des années. Si ce n'est des décennies, en fait, être mis en place, quoi, parce que, enfin, j'ai l'impression que dans tout ce qui est portail captif, hein, tout le monde doit faire à peu près le truc à sa sauce, et je pense que les mécanismes de détection des browsers qui sont déjà en place, en fait, seront probablement beaucoup plus efficaces à détecter la chose.
Plus facile à gérer. Enfin,
oui, c'est ça. Voilà. C'est une RFC qui arrive 20 ans après les portails captifs, donc forcément...
Ouais, voilà. Parce que là, la RFC a été publiée, a priori, en septembre 2020, donc c'est très récent, et... Donc ouais, on verra, mais sinon en vrai c'est cool d'avoir une API minimum utilisable.
Les gens se motivent plus qu'avec IPv6, quoi. Anyway, on reste dans les RFC avec un RFC sur le DNS qui ne répond pas toujours chez Monsieur Borsmeyer.
Ouais. Donc voilà, alors c'est un RFC qui est un poil différent. Alors je trouvais ça marrant de le mettre aussi parce que autant les RFC d'avant parlent vraiment d'implémentation d'API et de choses comme ça, de définition d'API. Là c'est un RFC qui vous donne toutes les commandes, en l'occurrence DIG, à faire sur des serveurs DNS pour savoir s'ils sont bien. Par exemple, vous gérez un serveur DNS, vous voulez être au taquet sur les bonnes pratiques, et bien ce RFC vous indique toutes les commandes à faire et quels sont les codes de retour que vous êtes censé avoir, enfin code de retour, à quoi sont censées ressembler les réponses quand vous faites les requêtes pour vérifier que votre serveur est bien. Et donc le RFC commence par expliquer que parfois les serveurs DNS ne répondent pas, et c'est pas normal parce qu'un serveur DNS, c'est comme la plupart des serveurs, il y a un protocole qui indique que, bah, par exemple, si le protocole ne peut pas répondre, ne sait pas répondre ou refuse de répondre, ne veut pas répondre, bah, il te répond par exemple un refuse ou un serve fail, comme dans un serveur HTTP où on a des codes de retour et ce genre de choses. Donc c'est rare que ça réponde pas. Et en fait, quand ça répond pas, souvent c'est parce que il y a eu un firewall qui a été mal configuré devant. Donc là, vous pourrez lire l'article. Borsmeyer aime bien tacler un petit peu les sysadmins qui font n'importe quoi et les boîtes d'audit de sécu qui réfléchissent pas et qui disent « faut bloquer les ports et faut bloquer tout ». Donc voilà, donc le RFC a tendance à expliquer, par exemple, il y a des firewalls qui vont laisser passer les requêtes A ou les requêtes CNAME, mais qui vont bloquer les requêtes NS, qui pourtant pourraient fonctionner pour le problème de... Qui pourrait aider à les clients à avoir des infos justement sur qui contacter pour ces trucs-là. Et donc, voilà. Il y a aussi, bon bref, des réponses incorrectes, etc. Et donc, le RFC fournit une liste de tests. Et dans l'article de blog de Borsmeyer, il y a un script qui fait juste toutes les commandes DIG les unes à la suite des autres. Et
c'est un peu bourrin, donc il faut quand même essayer de comprendre un peu.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut prendre le RFC à côté, lancer les commandes et comparer avec les résultats du RFC. Voilà.
Je crois qu'il a mis à disposition un script tout à la fin qui permet de tester si le serveur que tu utilises est à peu près compliant ou si tu n'as pas une middle box avant qui embête le trafic. À la fin de l'article, il y a un script.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il a pris toutes les commandes et il les a mises dans un script les unes la suite des autres.
C'est celui-là.
Voilà. Le problème est. Enfin. Et très souvent, c'est quand même une middle box, donc un firewall, un truc comme ça, qui altère les requêtes.
En fait, moi, de ce que j'ai vu dans l'article, c'est vrai que je n'avais pas spécialement conscience de ça non plus, mais c'est vrai que du fait que DNS est en partie sur UDP, enfin, en tout cas, est sur UDP dans la majeure partie des cas, a priori, ça peut se faire via TCP, mais voilà. Si jamais il y a un pare-feu ou une middle box, en fait, supprime, on va dire, les paquets, le client en fait ne sait pas si, ne sait pas trop quoi faire en fait. Est-ce que j'attends plus longtemps? Est-ce que je retente la connexion? Il ne sait pas trop en fait. Il doit deviner, peut-être faire un peu de magie, essayer de savoir à peu près ce qui bloque pour avoir une réponse quoi. Et le problème avec ça, c'est que en effet, comme il dit dans l'article, DNS c'est le point d'entrée d'Internet en fait. Et une connexion DNS, enfin une connexion à un serveur DNS qui ne fonctionne pas, peut-être synonyme de juste de ne pas pouvoir donner un accès à Internet à l'utilisateur final, quoi. C'est assez bloquant, en fait, en soi.
Tu veux dire que tout le monde ne se rappelle pas par cœur des IP auxquelles ils doivent aller?
Surtout l'équipe EV6, là, ma mémoire commence à flancher, tu vois. Déjà qu'il y a l'équipe EV4, voilà.
C'est ça. Donc voilà, encore une fois...
Pouvoir mettre un nom de domaine dans les headers, c'est important, parce que ça peut servir à, par exemple, rediriger des choses au bon endroit.
Ouais, bah ouais, par exemple.
Par exemple.
Voilà, encore une fois, suivez ce qu'écrit Bortmeyer. C'est en français, c'est très simple à comprendre en général. Bon, il faut un petit peu un background technique quand même, mais c'est toujours intéressant.
Moi, je trouve que c'est bien détaillé. Même quand tu n'as pas un background technique très poussé dans un domaine, ça permet d'apprendre facilement, surtout avec le fait que tout est traduit en français. Parfois, tu peux ne pas te faire avoir à cause des anglicismes. Moi, parfois, je sais que je me fais avoir sur une définition d'un truc parce que je ne comprends pas bien l'anglais derrière, on va dire, et là, au moins, c'est propre.
Oui, il aime bien tout traduire en français. Là, il vient de sortir un article il y a 5-10 minutes, là, à l'heure où on enregistre, où il parle d'estampille temporelle.
Estampille temporelle.
Pour les timestamps.
Ah, pas mal, ok. Moi, j'avais bien aimé aussi celui sur le portail captif avec le man in the middle et l'homme du milieu, tu vois, je trouve ça toujours très shady.
Tu me dis homme du milieu, j'ai l'impression qu'il y a Gandalf qui va arriver.
Ouais, voilà, ouais.
Garde du niveau, quoi.
C'est ça.
Anyway, maintenant on va parler de Percona et de RocksDB comme alternative à InnoDB dans MySQL. Donc InnoDB, c'est le système de stockage par défaut de MySQL, par défaut et avec les défauts qu'il a.
C'est ça.
Voilà.
On parlera pas de MySAM ou je sais plus comment ça s'appelle.
Le truc qui fait que le full text c'est relou à gérer et que tu peux pas de full text transactionnel dans MySQL. Ils l'ont peut-être fixé, ça, je dis ça, c'était en 2000.
Ils ont fixé en mettant InnoDB, quoi.
Voilà, et du coup, ils vont fixer InnoDB en mettant RocksDB, mais en fait, non. Judu.
Ouais. Ouais, c'est un article qui date du début de l'année, et s'il y en a qui écoutent aussi les cast codeurs, ils en ont parlé dans leur épisode d'août. Mais je sais qu'on pouvait le remettre parce qu'après, vous allez voir, il y a une suite dans nos idées. Donc l'article de Percona explique comment RocksDB fonctionne. Donc c'est un moteur de stockage key value, basé sur un LSM tree. On va pas aller essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Lisez l'article, c'est très complet.
Il y a des images, c'est vachement bien foutu.
Voilà, c'est ça.
La plupart des DB en dessous, il y a un clé valeur et après il y a des trucs au dessus. Clé valeur, la différence la plus importante à chaque fois, c'est comment est-ce que tu ranges le machin sur le disque.
L'avantage de RocksDB et du LSM Tree, c'est que tu peux écrire des données en append-only de façon très performante. Ça va être stocké de façon assez performante avec des très grandes possibilités de compaction. Lisez l'article, ils font des démonstrations, enfin des exemples où InnoDB stocke 6 gigas, RocksDB va prendre que 1,4 giga. Par exemple.
Ouais, le terme que vous cherchez, si un jour vous voulez googler ce truc-là, c'est WAL pour Write Ahead Log. Et c'est le truc qui dit que plutôt que d'aller changer une place, c'est-à-dire d'aller modifier directement la data, les bytes là où ils sont dans le disque, tu réécris des révisions les unes à la suite des autres. Et à un moment donné, tu as un truc qui s'appelle la compaction qui va arriver, qui va faire le ménage. Donc c'est comme ça que quand tu fais du append-only, tu n'as pas besoin de te poser de questions, juste t'écris à la suite comme un bourrin.
C'est ça. Et donc, c'est très performant quand tu as énormément d'écriture. Par contre, pour aller lire dedans et faire des recherches, c'est un poil plus lent. Donc, comme toujours, hein, il faut choisir ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Donc, quand on crée une base de données, par exemple, si on veut stocker des logs dedans pour de temps en temps aller lire ou, voilà, ou juste pour un peu les archiver, quoi, ça peut être intéressant de les mettre dans RocksDB. Donc, c'est à la création d'une base de données dans MySQL, on va dire j'utilise le moteur RocksDB pour cette base de données-là, plutôt que le InnoDB, etc. Et donc, voilà, l'article explique bien ce que ça apporte, ce que ça enlève. Donc, comme il y a des choix différents, par exemple, on perd beaucoup d'index parce que en gros, on peut rechercher par des clés primaires, mais c'est à peu près tout. Donc, on perd le full text, hein, qui était quelque chose qu'on avait gagné avec InnoDB. Voilà, et on perd aussi les foreign keys. Donc, oubliez le fait d'avoir un joli schéma relationnel dans une base de données qui est backed by RocksDB. Mais voilà, ça apporte des perfs d'un côté, ça enlève des fonctionnalités de l'autre, et ça peut enlever des perfs aussi si on veut faire beaucoup de lectures. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. L'article est très long et très complet, et je vous invite à le lire. Il est en anglais, celui-là.
Donc c'est Percona qui est un des éditeurs, même l'éditeur principal derrière MySQL. Enfin, il y a qui maintenant? Il y a Oracle et Percona en gros.
C'est ça. Mais en fait, la plupart des MySQL production ready qui tournent sur les serveurs des gens qui sont un peu sérieux, c'est du Percona.
Voilà. Donc chez nous, c'est du Percona.
C'est ça.
C'est ce que tu es en train de dire.
Exactement.
J'ai une petite question. Comment ça compare genre un truc comme Kafka en fait alors?
C'est-à-dire
Kafka, c'est pas vraiment la même chose, mais du coup, tu pushes de la donnée et t'as un stream de données plus ou moins. Et là, mais est-ce que la manière dont tu écris, après moi, c'est la même chose, non?
Ouais, plus ouais, en fait, ça se situe pas au même niveau.
Ouais.
Dans le sens où, toi, en tant que dev ou en tant qu'utilisateur de Kafka, tu vas avoir un stream de data. Ouais. Ok, avec Kafka. Et c'est complètement indépendant de la façon dont c'est stocké. Et MySQL, en tant que développeur, tu vas avoir un machin dans lequel tu vas faire des requêtes SQL et c'est complètement indépendant de la façon dont c'est stocké. Et ensuite, la donnée est stockée sous forme de clé valeur, en dessous, tu vois.
Ouais.
Écrite sous disque sous forme de clé valeur. Pour MySQL, pour Kafka, j'en ai aucune idée. Pour Pulsar, c'est Bookkeeper, dont on avait parlé dans plusieurs épisodes d'avant. Et Bookkeeper, je sais pas comment ça stocke de la data, faudrait regarder, mais.
C'est plus analogue.
C'est vraiment. Pardon ?
C'est plus analogue à Redis, du coup ?
C'est analogue à que dalle. C'est analogue à... Il y a la façon où j'utilise le machin et il y a la façon où le machin écrit des trucs.
En tant que
utilisateur du machin, Redis, c'est un clé-valeur et c'est directement stocké en clé-valeur. C'est maintenant plus... Enfin, il y a plein de modules pour ajouter des trucs en plus sur le clé-valeur. T'as WireTiger, RocksDB, InnoDB, enfin toutes ces petites DB qui là sont plus ForestDB chez Cachebase, qui sont plus focus sur comment le data va être écrit sur le disque. Et au-dessus, t'as ce qui permet d'aller requêter les choses et la manière dont tu vas les requêter. Et là, du coup, c'est différent.
C'est-à-dire que dans MySQL, là, ça ne change absolument rien à tes requêtes SQL. Ça va t'empêcher de faire des choses, par exemple des foreign keys, etc. Voilà. Mais tu vas continuer de faire du SQL, de faire des recherches et des inserts, etc. Voilà, avec la même interface. C'est juste que la façon dont c'est stocké, ça va complètement changer les performances de tes requêtes.
Ok, parce que pour moi, l'avantage du SQL, c'est d'avoir un modèle relationnel, etc. Quoi. Et là, finalement, tu perds ce modèle-là.
Mais c'est ça. Mais c'est un choix. C'est-à-dire okay, que
tu le sais.
Voilà. Et en fait, l'article est très complet et permet de voir comment ça fonctionne et donc de faire le choix en connaissance de cause, quoi.
Okay.
Voilà. C'est toujours bien d'avoir le choix. Mais du coup, en parlant de choix, je fais moi-même la transition, si tu me permets, Laurent.
Je t'en prie.
On a remis cet article parce que ça vous permet d'aller voir un peu comment ça fonctionne. Parce que justement, CockroachDB, qui est une base de données qui font je sais plus trop quoi.
C'est de la compat PG qui est faite pour faire du multi-cluster.
C'est ça, oui. Merci. Et donc, ils utilisaient RocksDB pour écrire justement sur le disque en back-end. Et ils le suppriment et ils remplacent ça par une solution maison qu'ils ont appelée Pebble. Parce que vous voyez, RocksDB c'est des gros cailloux et Pebble c'est les petits galets là, en anglais. Voilà, petit clin d'œil toujours. Donc voilà, c'est intéressant parce que il commence l'article en expliquant que RocksDB est en train d'être intégré partout, donc avec MyRox dont on vient de parler, ou RockSandra qui est voilà Cassandra sur RocksDB. Et mais en fait, ça résout pas tout. Et alors eux, le CockroachDB c'est écrit en Go. À la base, donc RocksDB ça avait du C++, un truc comme ça, du C ou du C++. Ouais. Donc ils utilisent Cgo qui est le truc qui permet d'appeler des libs.
C'est le binding natif, voilà. Un peu comme NodeJeep en Node. Tu vois, c'est le truc qui te permet avec ton langage d'aller, je sais plus, c'était JNI en Java, ou... non pas JNI.
Ce qui fait que ça rend la chose, voilà, pas forcément plus simple. Mais effectivement, quand tu crées du soft, l'article l'explique bien. Quand tu crées du soft, c'est bien de commencer avec des briques existantes. Donc voilà, tu prends RocksDB, tu le mets dessous, tu l'utilises. Et au bout de quelques années, t'es un peu plus mature et tu peux faire des choix. Peut-être qu'on va changer l'implème qui est dessous, etc. Et eux, ils se sont rendus compte que RocksDB ne leur causait pas beaucoup de problèmes, mais les quelques problèmes que ça causait étaient tous critiques. Voilà, je vous laisse. Voilà, dans l'article, ils expliquent qu'ils ont dû passer des nuits en mode il y a tout qui est en feu et on est en train de perdre de la donnée. Enfin, bref, et c'est la folie. Et donc, ils se sont dit, on va virer RocksDB, on va réimplémenter ce qui nous intéresse de RocksDB. Voilà, donc ils l'ont appelé Pebble. Et donc, ils ont remplacé RocksDB par un ersatz en Go qui est fait maison. Alors, j'ai dit ersatz sans aucun jugement. Hein. Et ils ont juste pris les fonctionnalités qui les intéressaient, ils les ont appelées en Go. C'est un langage qui est maîtrisé par l'équipe parce que le reste de la DB, de la codebase, est en Go. Ils connaissent maintenant le métier parce que ça fait quelques années que Cockroach, ouais, bref, que le cafard, que la DB du cafard existe. On va s'ajouter Bortzmeyer. Ils connaissent le métier, ils savent exactement ce qu'ils veulent et du coup, ils n'ont pas envie de subir le reste de la code du.
De la code base dedans. En fait, quand tu es en train de faire pompier la nuit au support et que tu plonges dans du C++ qui n'est pas à toi et que au day-to-day, tu n'écris pas du C++, tu écris du Go. C'est pénible et du coup c'est vraiment là-dessus qu'ils ont orienté ce choix-là et effectivement ils disent c'est pas 100% compatible RocksDB, c'est pour ça que le terme ersatz c'est pas un jugement mais c'est vraiment on a juste pris ce qu'il nous fallait et du coup ils disent bien ce n'est pas compatible à 100% avec RocksDB.
Voilà.
C'est
pas
l'objectif.
C'est ça. En fait en faisant le pompier et puis après en débuguant, ils ont quand même reversé upstream ils ont quand même envoyé des patchs à RocksDB pour améliorer le truc parce qu'ils ont rencontré des problèmes, ils les ont résolus. Et donc, ils ont acquis la connaissance du métier et la connaissance de ce qu'est une base de données clé valeur basée sur un KSM, un LSM tree, etc. Et voilà. Et ce lien m'a amusé parce que ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu chez Clever Cloud. Au tout début de Clever Cloud, quand on a lancé la plateforme en 2012, si je dis pas de bêtises, les 2-3 premiers mois, on utilisait OpenStack pour démarrer nos VM. Et en fait, c'était un peu l'enfer. On avait passé des mois et des mois pour installer OpenStack et faire tourner, et avoir à peu près ce qu'on voulait et le patcher un petit peu sur 5 serveurs à l'époque. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, ça ne fait pas exactement ce qu'on veut. Mais ça nous a permis, donc les 5 mois avant le lancement de la plateforme et les 2 mois où la plateforme tournait, ça nous a permis de savoir exactement ce qu'on voulait, de connaître les fonctionnalités qu'il nous fallait et de comprendre un peu aussi ce qu'on faisait parce que voilà, tu lances une plateforme de cloud quand t'as 20 ans, faut quand même avouer au début tu comprends pas tout ce que tu fais quoi. Et du coup voilà, on a recodé en 2 semaines, 2-0, juste les fonctionnalités d'OpenStack qui nous intéressaient et c'est bien mieux adapté et on a pu faire évoluer beaucoup plus facilement notre truc. Donc voilà, parfois on dit c'est le fameux not invented here syndrome. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre entre on va refaire de zéro quelque chose parce que ça n'a pas été inventé chez nous et on a utilisé une solution qui existait déjà de base parce que voilà, ça nous a permis de se lancer et de comprendre ce qu'on voulait et une fois qu'on comprend mieux on se rend compte que ce qu'on utilisait n'est pas forcément plus adapté, parfois c'est trop générique ou parfois on est un peu aussi obligé de tordre le bras de la solution. Et donc, l'article voilà, explique bien tout ce qui a été fait, pourquoi, en détail. Et que maintenant, ils ont beaucoup plus le contrôle sur la codebase. Voilà. Et en plus, il y a plein d'explications sur la méthode des tests, etc., pour avoir exactement ce qu'ils voulaient.
Et c'est, voilà. C'est très long, intéressant très là-dedans. Quand tu pars sur l'existant qui est censé t'aider à monter quelque chose, donc quand tu pars sur une plateforme pour monter ta propre plateforme, et c'est le cas d'OpenStack, et c'est le cas de Cube, et c'est le cas de tous ces trucs-là, en fait, qui sont des trucs très génériques pour faire plaisir à tout le monde et du coup font plaisir à personne, sauf quand t'as une armée de gus pour le gérer. Et c'est intéressant de se dire, finalement, on a vu comment ça marchait, on va faire le truc qui répond à nos besoins à nous, sans utiliser une grosse plateforme très complexe avec tout ce que ça implique, et vraiment partir sur juste ce dont on a besoin. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on a une plateforme de service qui fonctionne, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Arnaud, Agathe.
Non, pas spécialement.
Ok. Oui. Ok, et du coup, nous allons passer au lien suivant. On va maintenant parler de Warp 10. Il y a une nouvelle version de Warp 10 qui est sortie récemment, la 2.7.0. C'est un lien de Vacube, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Tu écris beaucoup de Warscript en day-to-day, toi, ou...
À une époque, j'en faisais un peu plus que ce que j'en fais maintenant. Donc,
Du coup, t'en as écrit suffisamment pour te dire que s'il y avait un autre langage, ce serait pas mal.
Ouais, je pense, ouais. Honnêtement, je pense, mais on va y revenir. Hein. Donc, en effet, Warp 10 2.7.0 sort. Alors, pour rappeler rapidement ce qu'est Warp 10, c'est une base de données, en fait, GeoTime Series. Donc, en fait, c'est une base de données qui est spécialisée dans le stockage, en fait, de points de données qui sont... stockés, on va dire, dans le temps. Vous avez des points de données qui sont stockés dans le temps, et aussi avec la partie géo, donc pour la géolocalisation, donc un point de données en fait a une valeur dans le temps et dans l'espace. Du coup, avant de parler en effet du nouveau langage de requêtage qui a sorti Warp 10, on va juste parler rapidement de deux nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites pour la partie récupération des données, qui s'appellent Step et Timestep. Globalement, ces deux nouvelles fonctions, je ne sais pas si c'est des fonctions ou des principes, j'ai pas trop regardé, permettent en fait à un utilisateur, quand il récupère de la donnée, de ne récupérer qu'une partie de la donnée qu'il souhaite. C'est-à-dire, imaginons avec la fonction step, vous pouvez récupérer un point tous les x points. Donc imaginons si vous avez des millions de points, en fait, vous n'avez pas spécialement en fait envie d'avoir ces millions de points, vous pouvez très bien en avoir, je sais pas, genre que 1000, imaginons, qui représenterait une tendance, quoi. Du coup, Step vous permettrait de créer plus ou moins cette tendance, je suppose. Et Timestep fait globalement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir tous les X points, c'est tous les X temps, en fait. Donc, je sais pas, toutes les X minutes, vous récupérez un point, etc. Quoi. Donc, ça peut être pratique, en effet, dans le cas de gros traitements de données, vous n'avez pas besoin de sortir toute la DB et télécharger Internet si vous avez beaucoup de données. Quoi. Voilà. Et donc, on en arrive avec la deuxième nouvelle fonctionnalité globalement, c'est en effet le langage Flows, qui veut dire Functional Lineage of WarpScript. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop WarpScript, en fait, à la base, donc c'est le langage de requêtage principal de Warp 10. Et en fait, c'est un langage qui est à pile, c'est-à-dire que vous définissez, imaginons, vous passez les arguments à une fonction, en fait, vous définissez d'abord les arguments. Donc sur la pile, vous les poussez les arguments un à un sur la pile, et ensuite vous appelez votre fonction, ce qui est un peu l'inverse de ce à quoi on est habitué en tant que programmeur, où on fournit la fonction et après on fournit les arguments. Et du coup, il y avait une espèce de consensus dans la communauté qui disait qu'en effet, WarpScript, étant très puissant par ailleurs, est un peu compliqué à apprendre quand on est débutant, que ce soit dans la programmation ou même dans le langage WarpScript tout court. Hein. Et du coup, ils ont en fait fait quelques recherches. Ils ont regardé un peu qu'est-ce qui embêtait plus les utilisateurs que dans l'utilisation de WarpScript. Et ce qui est retourné, c'est pas tant l'effet de l'utilisation de la pile qui, au final, c'est un paradigme qui peut se prendre et qui se comprend en fait plus ou moins assez vite. C'est un peu compliqué au début, mais on s'y fait. C'était surtout en fait sur la partie comprendre en fait. Par exemple, vous avez une fonction. Quels sont en fait les arguments de cette fonction? Imaginons que vous avez 5 arguments dans la fonction, qui est passé à une fonction. Donc vous avez votre 5 éléments qui sont pushés sur la pile. Imaginons si votre fonction ne prend que 3 arguments, en fait, vous ne savez pas vraiment, sauf si vous connaissez la fonction, vous ne connaissez pas vraiment en fait qu'est-ce qu'elle va prendre, quoi. Et donc, c'est ça qui était un peu problématique. Et a priori, ils ont designé Flows autour de ce problème-là. Donc, ça devient en fait un langage un peu plus classique avec de l'assignation. Imaginons que vous avez une variable, vous assignez le nom de la variable à gauche et la valeur de la variable à droite, par exemple. Et les fonctions viennent aussi avec un système de parenthèses pour spécifier les différents arguments. Donc, en fait, on retrouve plusieurs choses à peu près classiques. Pareil, définir les listes, on utilise des crochets, pour les maps, on utilise des accolades, mais enfin, c'est un peu plus intuitif que, enfin, si vous avez déjà fait du développement classique, quoi. Donc, c'est à peu près les grosses fonctionnalités de cette version. Vous avez, pour Flows, une présentation de Mathias Herbertz, qui est le créateur et CTO actuel de Sensix, donc développeur de Warp 10, sur le langage au Paris. J'ai perdu le nom.
C'est le Paris Time Series Meetup.
Voilà. Je venais de faire l'onglet, en fait. Paris Time Series Meetup, donc c'était il y a quelques semaines, moi, je ne me rappelle plus.
Quelques mois, ouais.
Ouais, qui décrit en fait le langage, et c'est honnêtement c'est assez sympa à regarder, surtout en fait dans la partie réflexion de qu'est-ce qui embêtait les utilisateurs. Voilà. Et dernière petite feature sympa de cette version, ça peut être utile si jamais vous récoltez de la donnée, vous pourrez maintenant prioriser vos labels. Donc en fait chaque série a différents labels, enfin peut avoir différents labels. Et vous pourrez prioriser quel label est plus prioritaire dans la query, ce qui fait que si vous avez beaucoup de séries, imaginons, avec beaucoup de labels différents, et certaines avec des labels très similaires, vous pourrez dire « je target d'abord ce label-là », ce qui vous filtrera beaucoup plus rapidement les séries avec qui ont ce label, plutôt que d'aller chercher et regarder absolument toutes les séries, quoi.
Ça t'évite un full scan de séries et...
C'est ça.
Ils ont fait quoi, un index de labels par série? Enfin, je sais pas.
Alors là, je sais pas trop, je vais pas aller regarder la pull request, mais...
Plus tard.
Voilà, c'est ça. Un autre jour.
Une autre fois. Ok. Judu, Agathe.
Non, rien à dire de plus. Là-dessus, je pense qu'on va assez rapidement mettre à jour.
Vous parlez tous les deux en même temps.
Mais je n'entends pas Agathe, donc.
Ah, d'accord. On va régler ça après, mais je vais répondre à Agathe du coup. Maintenant, les fonctions step et time step n'étaient pas en fait avant dans le langage. Ce qu'on utilise, par exemple, nous, pour afficher les métriques, c'est le bucketize. C'est-à-dire, on fait des buckets de données avec un certain temps. Et du coup là c'était pas la même chose parce qu'en fait on sortait quand même tous les points de la base de données, donc de Warp 10, pour ensuite les traiter après et donc faire ces buckets et donc drop des points potentiellement, etc. Alors que là le step and time step te permettrait, je suppose que c'est comme ça que ça va se passer, hein, te permettrait en fait de ne pas avoir à télécharger les points dont tu n'as pas besoin en fait, que tu ne demandes pas. A priori, en effet, si t'as beaucoup de données et que t'as pas besoin de sortir tous les points, plutôt que de faire du bucketize, enfin de tout sortir et de faire un bucketize après, là tu pourras juste sortir ce qui t'intéresse et peut-être faire ton bucketize après quand même, mais en tout cas sur beaucoup moins de points, quoi.
Voilà. Judith, tu avais un truc à ajouter ?
Ouais, je disais que Warp 10 on utilise depuis quelques années et je pense qu'on est chez Clever Cloud, notre cluster interne. On est toujours très prompt à le mettre à jour parce que à chaque nouvelle version, il y a quand même des perfs qui sont améliorées, des features qui sont très intéressantes.
Là, il y a des trucs qu'on va utiliser à chaque fois. Ouais.
Voilà, donc ouais. À chaque nouvelle version, on est toujours très excité de l'avoir arrivé, quoi.
C'est ça. On a le département, c'est pas machine learning, mais je sais plus.
Data science.
Voilà, data science qui aime bien avoir des nouvelles features aussi, donc. Voilà,
c'est ça. Et en plus, ils sont vachement à l'écoute. Et ça, c'est
ouais. Ouais, il y a un Slack, je crois.
C'est un Slack ou un Jitter, je sais plus, mais ouais. Si ça vous intéresse, c'est très très cool. Ok. On passe au lien suivant avec une nouvelle release de Firefox. Arnaud, je crois.
Ouais, tout à fait. Donc Firefox 81 est sorti là. Il y a quelques nouvelles features donc que je voulais vous partager. La première, c'était la possibilité à présent d'éditer et de gérer en fait ces cartes de crédit enregistrées. Vous savez, quand vous allez sur un site, vous pouvez payer quelque chose. Le navigateur vous propose souvent d'enregistrer les détails de votre carte de crédit. Et maintenant, en fait, a priori, dans Firefox, il n'y avait pas de moyen de gérer ces cartes de crédit, ou en tout cas de les éditer. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, a priori, maintenant, c'est le cas. Donc, c'est plutôt cool. Autre feature intéressante, je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais il y a le mode Picture in Picture qui, en fait, permet d'afficher une vidéo que vous lisez dans une fenêtre dédiée.
Ouais, je m'en sers déjà, c'est vachement cool. J'adore ça. Par contre, moi, je suis sur le 80 et je l'ai déjà.
Alors, voilà, il y a deux choses. Moi, je sais qu'ils disent dans l'article que ça va arriver. Moi, je sais que sur Nightly, je l'ai déjà. En même temps, du coup, je vais être en 83. Ça peut être vraiment être utile. Ouais, c'est ça. Si vous êtes sur YouTube, en fait, vous avez un espèce de petite icône qui arrive en fait sur la vidéo. Et quand vous cliquez dessus, vous pourrez en fait avoir la vidéo juste dans une fenêtre dédiée. Donc, ça vous évite de vous travailler tout le navigateur. Et vous pouvez la mettre, je sais pas, genre en bas à droite de votre éditeur de texte ou un truc du style, quoi. Donc, c'est plutôt pratique. A priori, Julien dit que ça existait déjà, du coup, Julien, tu dis?
Ouais, la fonctionnalité est arrivée, il me semble, depuis début 2020, je crois que je l'ai.
Ah ouais,
peut-être c'est pendant le confinement, ouais. Je sais plus. Mais ça. Voilà, dans la 81, ils améliorent l'interface qui va autour.
Ah, c'est peut-être pour ça.
Le début de fonctionnalité aussi.
Avant, je voyais pas justement cette icône. Ok, ouais, parce que maintenant, là, ça fait quelques semaines déjà, je vois vraiment une icône dans le lecteur. À chaque fois que tu lis une vidéo, et du coup, en effet, ça te permet de l'ouvrir. Peut-être que c'était avant que je connaissais pas. Enfin, bref, voilà. Et autre nouveauté, la possibilité de remplir des champs PDF interactifs. Donc, par exemple, si vous avez des formulaires dans un PDF que vous téléchargez, vous pourrez directement, a priori, le remplir depuis votre Firefox, en fait, et le sauvegarder. Ce qui manquait parfois, parce que moi, parfois, j'ai des PDF comme ça à remplir et c'est toujours fatigant d'ouvrir ça peut-être dans Chrome ou je sais plus dans quel outil j'utilisais, mais enfin voilà quoi, c'est plutôt sympa quoi. Voilà. Donc, ça c'était pour le côté utilisation du navigateur. Le côté développeur, dans le debugger JavaScript, en fait, a priori maintenant les fichiers de TypeScript sont mieux annoncés et identifiés. Donc vous pourrez directement browse le code source d'un fichier TypeScript, donc ça devait déjà être le cas. Mais là maintenant vous verrez vraiment que c'est un fichier de TypeScript. Il devient aussi possible maintenant de stopper l'exécution d'un fichier JavaScript lors de la première instruction de ce fichier-là, lorsque la première instruction en fait est exécutée. Donc c'est plutôt pratique quand vous avez plein de fichiers JavaScript et qu'il y a un effet de bord indésirable que vous avez par exemple sur votre page et vous savez pas trop qui est responsable. Donc bah comme ça vous pouvez arrêter ChapScript un à un et regarder en fait qui est responsable de cet effet de bord. Et voilà, je sais que j'avais eu ces besoins-là il y a très longtemps quand je faisais du JS. Un peu différent de ce que je fais aujourd'hui et où j'avais des effets de bord pas terribles. Enfin voilà, ça aurait pu m'aider à l'époque.
Quand t'avais du bacon JS partout?
Non, parce que sur Clever c'était globalement un seul fichier JS donc c'était pas trop gênant, mais c'était sur d'autres projets perso dans ma jeunesse.
dans ta carrière de YouTuber.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je vois.
Et dernier ajout, y a, donc, apparemment dans Firefox, il y a un outil qui simule en fait des. Enfin, il y a un outil en fait de simulation pour les personnes qui sont déficientes visuellement au niveau des couleurs, voir un peu mieux les couleurs, etc. Et en fait, a priori, avant, cet outil ne se basait pas sur des faits scientifiques ou sur des données scientifiques. Ça se basait peut-être, il me semble, sur un site tiers assez reconnu, mais c'était quand même pas scientifique. Et maintenant, c'est le cas a priori. Ça a été corrigé là, quoi. Donc, les couleurs ont été modifiées, etc. Ça peut changer quelque chose si vous utilisez cet outil-là, revérifier que tout semble OK, on va dire, à présent. Quoi. Voilà.
C'est ça. En fait, l'idée, c'est que quand tu es colorblind, là, comme ils disent en anglais, il y a plusieurs mots, il y a daltonien, mais ça ne représente pas tout en français, etc. Bref.
Tu as la deutéranopie, la protéranopie et la troisième couleur de couleur.
C'est ça. En fait, voilà, il y a plusieurs façons d'avoir des déficiences visuelles, notamment au niveau des couleurs. Et en fait, avant l'outil, l'idée, c'est qu'il vous change les couleurs pour vous faire comme si vous aviez cette déficience visuelle pour mieux comprendre comment ces gens voient votre site.
Et... Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as plein de trucs qui peuvent être interactifs, parce que suivant le souci que tu as, C'est un des cônes dans ton œil qui
soit
ne
moins,
voit
en fait.
Pas du tout une couleur, soit la voit moins. Et c'est pour ça que les gens qui se rendent compte de ces trucs-là très tard, c'est parce qu'ils voient peut-être juste un petit peu moins le vert, ou d'autres qui voient carrément pas le vert. Et donc, et des fois t'en as un, des fois t'en as deux, des fois t'as les trois et tu vois tout en noir et blanc. Donc ça va être assez assez compliqué à faire comme outil.
C'est ça. Et donc, enfin voilà, avant cette version-là, je pense qu'il y avait des développeurs qui avaient fait des trucs un peu à l'arrache en mode, ouais, on va mettre plutôt en niveau de gris pour donner une idée, etc. Et depuis, bah, ils se sont basés sur des vraies données scientifiques parce que je pense que la recherche a bien avancé ces dernières années aussi autour de ces déficiences visuelles-là.
Ouais, alors en vrai, moi je m'y connais pas trop, mais par exemple dans le storybook qu'on utilise, je crois qu'il y a un espèce d'outil du style pour les composants, etc. Alors je sais pas à quel point c'est développé et autres, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi que je vois arriver de plus en plus à droite à gauche, et en tout cas ça reste pas un... enfin il faut le prendre en compte, quoi, et c'est pas toujours le cas.
C'est ça, parce qu'en fait on n'a aucune idée de savoir comment une autre personne peut regarder la couleur. Enfin, la perception de la couleur, c'est quelque chose qui est vraiment lié à nous, et c'est impossible de savoir comment quelqu'un d'autre peut voir telle ou telle couleur, enfin voilà, perçoit les couleurs. Et en fait, les gens qui ont on peut appeler ça des déficiences, mais bref, qui sont pas complètement dans la norme, en fait, il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Et il y a des gens qui, toute leur vie, se rendent pas compte qu'ils voient moins bien certaines différences.
Il y a une super vidéo de Poisson Fécond à ce sujet que je vous posterai.
Bah, pour le coup, moi je suis daltonienne. Ouais. Et tout bêtement, les cartes là, pour le Covid, pour les zones et tout, je n'arrive pas à voir les différences entre la plupart des zones. Hein. Ouais. Avec leur nouveau écart là.
Tu sais pas faire la différence
ça,
entre le super rouge et l'extra rouge.
Non, je ne suis pas capable de la faire.
C'est dommage. Ça ne sort pas de chez toi du coup.
Ouais.
Je pense que c'est le mieux.
On va passer à un lien Twitter. On reste dans les nouvelles releases avec une nouvelle release de Wireshark. Alors, qu'est-ce que c'est Wireshark ?
Alors, c'est pas vraiment une nouvelle release de Wireshark. Enfin, c'est plutôt une annonce un peu gadget, on va dire, mais vraiment sympa.
Pour la future release.
Voilà, pour la future release de la, qui sera a priori la 3.3.0. Donc, qu'est-ce que Wireshark ? C'est un outil en fait de capture et de visualisation de ces captures de données réseau, enfin de trames réseau, quoi, globalement. Si vous avez besoin en fait de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre réseau, vous pouvez lancer Wireshark ou TCPDump si vous préférez la ligne de commande. Je crois qu'il y a même d'ailleurs une CLI de Wireshark, enfin bref. Et vous pourrez en fait capturer le réseau, et après derrière Wireshark vous offre une visualisation graphique, quoi, visuelle. Avec différents supports de protocoles, etc., ce qui permet vraiment de décortiquer les paquets.
Ça peut être vachement utile. Imaginons à un instant que vous ayez à utiliser l'API d'un produit propriétaire et mal documenté. par exemple, faire de la compat pour comment ça s'appelait, SharePoint, ce bon vieux SharePoint. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé, alors ça remonte, hein, Wireshark, c'était pour ça, c'était pour une upgrade de version de SharePoint avec une doc pourrie et pas les sources. Tu regardes ce qui passe dans le réseau et puis t'essayes de débugger, quoi.
Ouais, voilà. Moi ça me sert pas mal dès qu'il y a des trucs un peu trop complexes à afficher via TCPDump. Enfin, parfois TCPDump c'est un peu trop brut et on n'a pas bien de LED ou autre. Wireshark est vraiment utile pour au moins la visualisation, quoi.
Sinon, si vous êtes sur un Wi-Fi open sur un hôtel, ça permet de regarder les choses rigolotes. Mais nous n'en dirons pas plus.
Voilà. Cette nouvelle fonctionnalité, si vous regardez le GIF ou le GIF, j'en sais rien comment vous le dites, enfin bref, voilà, dans le tweet, vous aurez en fait une visualisation d'un paquet, en fait. Vous pourrez maintenant voir exactement, graphiquement, comment est construit le paquet. Ce qui est intéressant, ça vous permet plutôt que de regarder dans l'exa ou même dans la liste un peu brute des données à gauche, quand vous regardez un paquet, là vous saurez à peu près comment est agencé en fait votre paquet, où se trouve la donnée, où se trouvent les headers, etc. quoi. Donc c'est un peu gadget, mais c'est marrant, honnêtement. Voilà.
Non, je trouve ça bien, je trouve ça visuel, ça fait plaisir de...
Ouais.
Quand tu apprends des trucs, en fait, pour apprendre comment marche le réseau, Wireshark, c'est vraiment...
Alors cool. Ça, par contre, pour apprendre la visualisation, moi je trouve ça vraiment top.
Ouais.
C'est beaucoup. Enfin, moi, je préfère avoir une utilisation comme ça plutôt que de lire les paquets un peu en manière, enfin, genre, je sais pas, explicite. Là, au moins, c'est visuel.
Ça rappelle les cours de réseau à la fac.
Ça, bah ouais.
Les cours de réseau tout court.
Ou les cours de réseau tout court, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais.
Ce qui potentiellement nous emmène au lien suivant, qui est un autre article de Bortzmeyer. En fait, quand on a ajouté, on a des articles de Bortzmeyer, qui parlent d'IP, de fragmentation d'IP, Judu.
C'était pas Arnaud celui-là?
Ouais, c'est plus moi qui l'avais.
Vas-y, Arnaud.
Mais honnêtement,
tu fais du profiling.
On va le co-caster avec Julien, ouais, ouais. Parce que Julien et les MTU, etc., c'est toute une histoire d'amour. Donc, c'est un lien, en effet, de Bortzmeyer qui parle de IP fragmentation considered fragile, avec un accent anglais incroyable. Donc, la fragmentation IP considérée comme étant fragile. Alors, rapidement, qu'est-ce que déjà la fragmentation IP? Et en fait, qu'est-ce qu'un paquet IP, hein, tout simplement? Donc, un paquet IP, en fait, IP est un protocole réseau. Et là, vous me corrigerez si je me trompe, hein, parce que honnêtement, ça remonte aussi mes cours. Mais du coup, IP est un protocole réseau en fait qui s'occupe de transporter, on va dire, de la donnée plus ou moins, enfin de la donnée brute. Lui, il connaît pas trop en fait ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que, imaginons dans un paquet TCP, vous avez potentiellement plusieurs paquets IP, quoi. En fait, TCP, UDP et autres se basent sur IP pour acheminer la donnée. Donc, IP, lui, est un protocole non connecté, comme on l'appelle, c'est-à-dire lui il s'en fiche de savoir si la machine en face ça répond pas, c'est pas trop son problème. Quoi. Lui, son problème, c'est de transporter plus ou moins la donnée, c'est de faire la liaison. Quoi. Enfin, c'est de faire le réseau. Et dans la couche OSI, si jamais vous êtes intéressé, IP c'est le modèle, enfin c'est la couche 3 du modèle OSI, donc le réseau, et TCP par exemple c'est la couche 4, donc la couche qui est juste au-dessus, qui est donc le transport. Voilà. Et donc dans la fragmentation IP, voici IP, c'est ça, c'est un paquet IP qu'on découpe. Donc pourquoi est-ce qu'on le découperait? Parce qu'il est trop gros. En général, on découpe en fait des gros paquets IP en plusieurs paquets, enfin ce qu'on appelle datagrammes plutôt, qui sont eux plus petits. Voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a besoin de découper tout ça? À cause en fait de la MTU. Et on a un peu un proverbe en réseau, c'est qu'on dit toujours. Je sais pas, Julien, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose.
Ouais. Donc, donc la MTU, c'est maximal transmission unique. Unit, c'est pardon.
Unit, ouais.
Donc, voilà. Effectivement, en réseau, parfois, quand il y a des problèmes, c'est la faute à la MTU. Alors, bon, parfois, c'est aussi
c'est
le DNS.
C'est le premier truc
hein,
qu'on
regarde, quoi. Qu'on voilà. Mais voilà, souvent, c'est la MTU. Et en fait, la MTU, ça va être défini sur chaque lien. C'est-à-dire que Internet, enfin, l'interconnexion mondiale, c'est un tas de nœuds qui parlent chacun au nœud d'à côté. Et quand tu vas envoyer un paquet qui doit passer par 5 nœuds pour arriver à sa destination, peut-être qu'il y a un moment, un des liens entre deux nœuds qui va être moins gros et qui donc va pouvoir faire passer des paquets seulement plus petits, quoi. Et en IPv4, donc en fait la MTU est définie à chaque lien, et en IPv4, quand un paquet arrivait sur un routeur, sauf si dans le paquet il y a un flag qui dit don't fragment, si le paquet est trop gros, le routeur le découpait en deux paquets plus petits pour pouvoir le faire passer dans la MTU jusqu'au lien suivant. Et donc ça veut dire que n'importe quelle machine peut fragmenter, etc., découper les paquets. Voilà. À noter qu'en IPv6, il y a que la machine émettrice qui peut fragmenter son paquet. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un paquet qui ne peut plus passer, il y a un message de retour du routeur qui dit « Désolé, moi, ma MTU sur le chemin, elle est à temps et le paquet qui m'a envoyé est trop gros. » Et du coup, la machine émettrice va renvoyer le paquet, enfin, va redécouper de son côté et renvoyer le paquet jusqu'au bout. Alors, ça pose des problèmes pour l'adoption d'IPv6 parce que, encore une fois, en tapant sur les ops qui ne savent pas trop ce qu'ils font.
On va y arriver.
Il y a beaucoup de gens qui bossent dans le réseau qui vont bloquer parce qu'on leur dit oui, il ne faut pas que notre serveur puisse être ping parce qu'il ne faut pas qu'on puisse le trouver. Alors, c'est quoi l'intérêt d'un serveur qu'on ne peut pas trouver? Mais bref, ce qui fait que pour bloquer certaines choses, les gens bloquent tout le protocole qui s'appelle ICMP, qui est un peu le protocole compagnon de IP, qui est celui qui permet de contrôler ce qui se passe. Et donc, notamment, de renvoyer les « désolé, c'est trop gros, faut que tu redécoupes ».
En fait, quand il y a imaginons un routeur, en IPv6, imaginons un routeur, en effet, reçoit un paquet qui est trop gros, en fait, il va envoyer un paquet ICMP à la machine émettrice, ayant comme contenu, en fait, ton paquet est trop gros, paquet too big. Mais du coup, en effet, c'est ça. Par exemple, pour la MTU, la MTU, en plus, peut changer au fur et à mesure, donc c'est ça qui n'est pas toujours évident. La MTU n'est pas toujours la même. Donc elle s'adapte aussi forcément au routage sur le chemin. Donc ça te pose en fait tout un tas de problèmes. Et du coup, en tout cas en IPv4, les routeurs sont capables de découper, mais pas IPv6. Et donc en fait, pourquoi est-ce que c'est considéré comme fragile la fragmentation IP du coup? Parce que si a priori les routeurs peuvent découper tranquillement, en IPv4, ils peuvent découper tranquillement les paquets comme ils le veulent pour adapter à la MTU du prochain nœud, pourquoi c'est fragile? En fait, c'est pas le processus en soi de découpage qui est fragile, c'est le processus de réassemblage. Parce que du coup, vous pouvez recevoir en fait plusieurs datagrammes IP pour un seul paquet IP, mais il sera dans le désordre potentiellement, ou alors parfois certains datagrammes se seront perdus, parce que Internet n'est pas tout rose, hein, parfois des paquets se perdent. Et en fait, du coup, ça pose des différents soucis. D'abord, en effet, des problèmes de sécurité, on va dire. Qui peuvent être en découler si jamais vous réassemblez mal un paquet IP, vous pouvez avoir, je sais pas, il y a quelques exemples, il me semble, dans l'article qui disent, ça peut, en fait, des problèmes de sécurité peuvent en découler. Et en fait, a priori, ça a donné naissance à une légende urbaine comme quoi la fragmentation d'IP en elle-même était, en fait, un problème de sécurité ou pouvait poser un problème de sécurité. D'où le fait que certains sysadmins ou box entre les deux bloque en fait les paquets ICMP tout court, en fait, voilà, c'est a priori d'après les légendes urbaines, ce qui est un peu dommage. Mais il y a aussi en fait plusieurs problèmes, c'est que fragmentation IP, ça veut dire vous recevez plusieurs paquets, donc il faut avoir en fait un état de ce que vous avez déjà reçu, de ce qui vous manque. Et en fait, si imaginons vous avez un attaquant qui vous envoie des paquets IP fragmentés, mais en fait il vous envoie pas tous les paquets, enfin les datagrammes qui correspondent, la machine finale en fait va devoir garder un état qui au final va grossir et peut-être augmenter la consommation de RAM et de CPU, et donc au final amener ça à un DOS en fait, puisque votre état sera tellement gros que votre machine sera sous l'eau. Donc ça peut poser problème. Il y a aussi en effet donc les pare-feux qui droppent les réponses ICMP paquet too big parce qu'ils sont mal configurés. Mais ce qui engendre comme problème, c'est qu'en fait la machine qui a envoyé les paquets ne saura en fait jamais que certains datagrammes ne sont pas arrivés, ou même le routeur en fait entre les deux ne saura jamais que les datagrammes ne sont pas arrivés, et donc ne les renverra pas ou n'essaiera pas en fait de redécouper. Donc en fait vous allez avoir un espèce de trou noir des paquets sur votre réseau qui fait que ni l'émetteur ni le récepteur, parce que il y a quelqu'un au milieu qui aura dit ne verra en fait le paquet arriver correctement. Et donc ça pose des problèmes, surtout en fait dans le cadre de tunnels ou autres, tunnels IPsec par exemple, où la MTU peut être diminuée, etc. Je sais pas, enfin Julien, t'as peut-être un truc à dire sur la partie IPsec, mais voilà.
Tiens que c'est compliqué à débugger, quoi.
Je pense en vrai.
C'est ça, et il y a un autre truc un peu marrant, c'est que une fois que ton paquet est découpé en plus petits paquets, ils vont pas forcément tous prendre le même chemin. Et donc, ils vont arriver dans le désordre, ou justement, pas de chance, il y a un ou deux qui auront pris un chemin où ils seront bloqués par un firewall un peu bizarre que quelqu'un aura mis par là. Et donc, c'est comme ça qu'on peut perdre des paquets.
Voilà, donc après, vous avez plein d'autres causes, a priori, qui sont mieux expliquées dans le blog et qui sont assez spécifiques, mais globalement, elles existent. Et après en solution, parce que c'est vrai que la fragmentation IP, on est un peu obligé de l'avoir aujourd'hui plus ou moins. Il y a en fait le fait que ce soit directement au protocole au-dessus, donc au protocole dans la couche transport, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, qui lui-même en fait découpe les paquets, donc genre ce serait le rôle de TCP. Et en fait TCP en tout cas lui a la connaissance, enfin peut avoir la connaissance pardon, de la taille en fait de la MTU sur tout le chemin, via un paramètre qui s'appelle MSS. En tout cas, on peut définir en fait ce paramètre pour définir une MTU maximale, et donc qui serait probablement plus faible que la MTU de tout le chemin. Et donc, il y a cette optique-là. Malheureusement, UDP, par exemple, ne supporte pas ce genre de choses. En TCP, on peut le faire, mais en UDP, on peut pas. A priori, il y a des RFC qui commencent à en parler, etc. Donc, ça peut arriver. Et il y a aussi d'autres moyens. Alors, je vous laisse, pareil, découvrir les différents articles, en fait, qui sont liés dans le blog, qui parlent de comment faire de la découverte de MTU sans ICMP, et donc avoir d'autres solutions, en fait, qui vous permettent d'éviter les middle box mal configurés, quoi. Donc, voilà. C'est très intéressant. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une grosse connaissance en réseau, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le blog est super bien expliqué, super détaillé, en fait, et on apprend énormément de choses, surtout sur pourquoi, en fait, on a ce comportement-là aujourd'hui. Et c'est vraiment... c'est un peu long, mais c'est vraiment très sympa.
Ok. Merci, Arnaud. On va passer au dernier lien. On va parler de Microsoft qui a, j'allais dire enterré, mais c'est pas vraiment enterré, qui a immergé data center.
Tout à fait. Peut-être que vous vous en rappelez, mais il y a 2 ans, en fait, Microsoft a donc immergé un data center pour différents tests, en fait, et surtout principalement tester l'effet de refroidissement de. Je sais pas si c'est un océan ou. Enfin, en tout cas, tester le refroidissement d'un data center dans de l'eau et voir en fait s'ils arrivaient à économiser de l'énergie sans pour autant perturber en fait l'environnement dans lequel se trouve ce data center. Donc dans ce data center, il y avait 855 serveurs qui étaient à l'intérieur et ils étaient globalement alimentés en internet et en réseau et en électricité par des câbles sous-marins, etc. Donc voilà. assez classique, on va dire. Et donc c'était un test en fait aussi pour voir au-delà du fait que comment se comportait le data center, voir si c'était possible pour plus tard, imaginons, de plutôt que de construire des data centers sur la Terre où c'était long, coûteux et différentes raisons quoi évidentes faut que ce soit dans des endroits à peu près bien connectés, etc. Voir si on pouvait pas les mettre sous l'eau à la place et si c'était un modèle économique viable en fait à faire pour plus tard. Je suppose que dans ce genre de configuration, les maintenances techniques sont quand même beaucoup moins possibles ou probables en fait même. Genre si j'avais un serveur crash, sous combien de temps est-ce qu'il est, pas crash mais genre une défaillance matérielle, sous combien de temps est-ce qu'il serait réparé ? Là, je sais pas. Genre alors attendez, faut qu'on sorte votre DC de l'eau. Bon, globalement après, c'est ce qu'ils ont fait après 2 ans. Hein, ils l'ont sorti de l'eau justement. Donc il y avait seulement 8 serveurs qui étaient défaillants. Ce qui, d'après eux, était plutôt en fait un bon chiffre. Je ne sais plus de par combien c'est le facteur en data center classique, mais il était par 2 ou 3, je crois. À voir.
Alors, en 2 ans, c'est pas énorme, hein, c'est clair.
En 2 ans, ouais, 8 serveurs qui plantent sur 855, parce que voilà, faut quand même rappeler combien ils en mettent dans leur DC, qui est en gros une grosse citerne qu'ils immergent, quoi. Le DC, donc ils mettent 855 serveurs dedans, ils ont seulement 10% qui en 2 ans ont été défaillants. Alors en plus, il faut voir ce que ça veut dire.
Pas
défaillant.
10% en fait. 855, ça fait 1%.
1%, pardon, oui, non, j'ai oublié les maths. Donc ouais, je pense que c'est plutôt un bon score.
Ouais, c'est ça, c'est un bon score. Et il explique du fait que, a priori, il y a moins d'interactions humaines avec les serveurs. Alors de là à dire, est-ce que les serveurs crashent parce que les humains s'en occupent, je sais pas. En tout cas, ils sont défaillants.
Il n'y a pas un mec qui va rentrer dans le DC et qui va crier comme un ouf pour faire
ouais, son... Ouais, qui va brancher sa Switch sur l'arrivée du courant parce que voilà, tu vois, il faut qu'il joue à je sais plus comment s'appelle le dernier jeu à la mode, là.
Et il n'y a pas les agents de nettoyage qui viennent et qui débranchent les serveurs pour brancher le...
Ouais, voilà.
L'aspirateur aussi. On a déjà vu ce genre de choses arriver.
Ah bon? Ok, enfin voilà. Et après, il y a aussi l'autre explication. A priori, c'est qu'au lieu d'avoir de l'oxygène dans le data center, en fait, c'était de l'azote. Je suppose que c'est de l'azote parce que ça conduit mieux, peut-être la chaleur ou en tout cas plutôt la fraîcheur de l'océan. Je sais pas. Mais c'était pas de l'oxygène classique. Donc a priori, ouais. L'oxygène.
Ou peut-être qu'ils se sont tout simplement dit, vu que de toute façon le truc est sous l'eau et qu'on va pas y toucher et que personne va rentrer dedans. Sauf quand on le sortira de l'eau et là on l'ouvrira et là il y aura vraiment de l'air dedans, tu peux te permettre de virer tout ce qui risque d'oxyder justement le,
ouais, voilà,
les morceaux de métal. Donc je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, tu vois, basé sur des raisons scientifiques aussi là-dessus, quoi. Pas juste sur le refroidissement, je pense que ça a peut-être joué aussi, mais voilà.
Ouais, bah peut-être, ouais.
Parce que c'est bien connu que... Enfin, c'est bien connu, enfin, par moi en tout cas, que les... dans les paquets de chips, par exemple, ils enlèvent l'oxygène pour pas que les chips se ramollissent. Enfin voilà, la composition de l'air dans les paquets de chips est un peu différente aussi, parce qu'ils mettent des gaz qui évitent que ça se...
C'est, pour
c'est
ça
déjà une pratique qui se fait beaucoup, quoi.
C'est personne... pour ça que...
Quand ton paquet est ouvert et qu'il est resté un jour, les chips sont peut-être moins bonnes que si tu l'avais laissé enfermé et que tu l'ouvrais effectivement, c'est logique.
Exactement.
Ok, ok, c'est beau.
Je pensais que c'était que l'humidité ambiante, mais fine. Eh bien, sur ces bonnes paroles et ces histoires de chips, c'est le moment du choix musical de la journée, enfin de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud de 6 à 10. Nice Girl, Agathe, tu es de 11 à 15 et Judu de 16 à 20. Et j'ai fait 17. Judu est content.
Pardon, j'ai oublié de, dans l'excitation, je n'ai pas rallumé mon micro. Trop bien. Donc, je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Santiano. Je ne sais pas si ça vous parle, de Hugo Frey, sauf que là, elle est chantée en allemand. Voilà, alors c'est pas une traduction exacte des paroles, c'est une reprise, mais par un groupe allemand de musique qui s'appelle Santiano. En fait, ils ont, il y a quelques dizaines d'années, ils ont entendu Santiano de Hugo Frey, ils ont fait « Oh, trop cool, on va monter un groupe de musique où notre scène, ça va être un bateau pirate et on va chanter dessus, et ça va être trop bien. » Ils ont un style ouf, en vrai. Et du coup, voilà, et notamment leur chanson phare, c'est Santiano, leur version en allemand. Et ça, c'est une version où, en plus, ils ont dû faire ça avec l'orchestre philharmonique de je sais plus trop quelle ville en Allemagne. Donc, en plus, ça envoie un peu de pâté. Alors, voilà, ça fait classe, quoi.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé à ce podcast et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
Au revoir. Bonne semaine.
Bonne écoute.
Und tief wie das Meer, doch mein Seemannsherz.